Bonjour à tous, ici Radio Gemozo, vous écoutez l'Actuali. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios le peintre vosgien Jean-Marie, qui expose en ce moment au conseil départemental d'Épinal depuis mai, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de découvrir ses œuvres jusqu'en novembre. Des œuvres proches de l'hyperréalisme réalisées uniquement à l'huile. Mais avant d'en dire plus, Jean-Marie, comment ça va ?
Ça va très bien, par une belle journée d'août, comme ça.
Oui, voilà. Il fait très chaud aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Alors, Jean-Marie Chéruot, je suis né à Laval, mais pas Laval-sur-Vologne, Laval dans le 53 en Mayenne.
D'accord, ok.
Voilà, donc un petit peu de voyage avant de venir dans les Vosges.
Donc tu n'es pas originaire d'ici ?
Non.
Et alors, tu es venu ici pour quelle raison ?
Oh, c'est une géographie amoureuse qui m'a amené ici, voilà.
Je suis d'accord, je pense qu'on a tous été appelés par les montagnes et la forêt vosgienne qui sont très très appréciables dans les coins. Alors, avant de plonger dans ton univers artistique, on va prendre le temps de te découvrir. Quel est ton parcours ?
Ah, c'est un petit peu chaotique. Enfin, ça a commencé, j'allais dire, à l'école. Je dessinais beaucoup, enfin dans le primaire surtout, je dessinais beaucoup dans les marges des cahiers, etc. Et puis mon institutrice de CM2, donc à l'époque j'habitais Rennes,
d'accord,
donc la Bretagne, j'habitais Rennes, et cette bonne fée m'a emmené un matin aux Beaux-Arts de Rennes.
Ah, voilà. Très belle expérience.
Et l'après-midi au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et je crois que je suis né ce jour-là.
Tu t'es découvert.
Je suis né ce jour-là parce que je ne connaissais absolument rien à la peinture, ni à l'histoire de la peinture. Je ne sais même pas qui était Picasso et Léonard de Vinci. Et tout d'un coup, cette dame, me voyant toujours dessiner, a décidé effectivement de me prendre par le col et de m'emmener dans un musée. Et là, c'est un peu le métavers. C'est-à-dire que vous découvrez un autre univers. Moi, j'étais dans un milieu plutôt modeste, ouvrier, et là, je découvrais tout à fait autre chose. Et je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Voilà. Inconsciemment, parce que je devais avoir 11 ans, donc c'était pas encore très maîtrisé tout ça.
Oui, mais... Tu dis, j'ai découvert un autre univers.
Oui, parce qu'il y avait l'univers de l'école et de la famille qui était, comme tout un chacun, l'univers et de l'école et de la famille. Mais tout d'un coup, il y avait une porte qui s'ouvrait, que je ne connaissais pas, mais que j'avais l'impression de connaître déjà. C'est-à-dire que je rentre dans un univers et, alors je ne dis pas que j'avais tous les codes, mais j'étais familier déjà à ce que je voyais, à ce que je sentais.
Un petit peu comme une évidence.
C'est totalement ça. C'est bien résumé.
Donc c'est très jeune que ton amour pour la peinture a débuté. Pourquoi est-ce que du coup tu as eu envie par la suite de t'exprimer par l'art ?
Je ne sais pas, ça ne se commande pas, ça ne se commande pas, c'est un besoin, une nécessité qui arrive comme ça tout à fait naturellement, sans réflexion derrière, comme le besoin de boire et du manger, tout simplement. C'est une force qui vous pousse comme ça à aller dans cette direction. Mmh. Peut-être que si on m'avait mis dans l'univers du cinéma, j'aurais peut-être fait du cinéma, ou je sais pas, ou j'aurais écrit si j'avais été plongé dans l'univers de la littérature. Mais voilà, là, je sentais que j'avais déjà quelques codes. C'est déjà une approche quand on sent un petit peu les parfums autour de nous, qu'on croit connaître un peu.
Par la suite, comment est-ce que tu t'es développé dans ce monde-là ?
Alors, un petit peu en parallèle, parce que dans un milieu très modeste, et puis enfant placé très tôt en famille d'accueil, donc on ne m'a pas donné la possibilité de faire de longues études, donc ça s'est arrêté très tôt. Donc si on m'a dit « tu veux faire de la peinture », ça sera un CAP de peintre en bâtiment. C'était très prosaïque à l'époque. Hein.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai fait un CAP de peintre en bâtiment parce qu'il faut bien payer son loyer, son gaz, son électricité, etc. Voilà. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours fait de la peinture. Et puis au fil du temps, je me suis détaché de cette peinture en bâtiment pour la peinture artistique.
Donc voilà. Tu as quand même été dans la peinture en bâtiment.
Oui. Je n'ai jamais détesté. Parce D'accord. que je sais pas, je manipulais de la peinture déjà. C'est une approche pour faire les fonds, c'est pratique.
Ça sort de ta bouche voilà. comme un besoin, en fait, de toucher à cette matière.
Oui, c'est exactement ça.
Est-ce qu'à l'époque, quand tu disais que tu voulais devenir peintre ou que tu adorais ça, c'était quelque chose de mal vu ?
Une famille assez... C'est empirique, donc qui me disait de faire plutôt effectivement un CAP parce que là il y avait un salaire qui tombait tous les mois de façon très régulière avec des possibilités de devenir chef d'entreprise ou des oui. choses comme ça. Donc voilà, et donc quelque chose de très concret pour ma famille. Oui. Artiste peintre, c'est pas très concret, on sait pas, c'est pas palpable.
Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme le lancement de YouTube, par exemple, les premiers YouTubeurs.
C'est exactement ça, c'est pas palpable. Où est-ce qu'il va? Comment on en vit? Éventuellement, si tu veux, tu enseignes aux Beaux-Arts, mais j'ai pas pu faire d'études longues, donc j'ai pas pu être professeur aux Beaux-Arts. Ça aurait pu être une voie de confort. Ça aurait pu être une voie de confort. Oui. Mais j'ai choisi l'inconfort.
Alors, c'est quoi l'inconfort ?
L'inconfort, c'est de conjuguer le métier de peintre en bâtiment et puis ensuite travailler en parallèle de ça les samedis et dimanches. Alors, j'oublie que dans mon parcours, j'allais souvent de Rennes. J'avais ma sœur qui habitait Paris, donc je faisais Rennes-Paris de temps en temps, et j'allais au musée du Louvre. Voilà. Et au musée du Louvre, à l'époque, il y avait beaucoup de copistes qui traînaient dans les allées, dans les couloirs du musée. Et je m'amusais à regarder avec à distance respectable quand même. Je regardais les copistes copier.
Intéressant.
Mais comme c'est une activité très visuelle, on apprend énormément en regardant, tout simplement.
Oui.
Voilà.
Alors, l'observation.
Pas que, parce qu'après on complète avec de la littérature. Mais en regardant faire, on apprend énormément.
Et c'est comme ça que toi tu as appris.
Oui, entre autres. Et puis, travail. Je dis, dans la littérature, on apprend à compléter un petit peu ce qu'on ne voit pas visuellement parlant auprès d'un copiste, mais on apprend aussi en faisant énormément. Voilà, autodidacte, voilà.
Autodidacte.
Pas d'école.
Oui, d'accord.
Pas d'école parce que je n'avais pas les beaux-arts. J'étais déjà parti de Rennes, donc à un moment donné, je n'avais plus les beaux-arts à proximité parce que j'aurais pu faire les cours du soir. Si, je suis allé à un cours du soir aux beaux-arts, je me suis ennuyé terriblement.
Oh. Ah bon ?
Je me suis ennuyé terriblement et je ne suis jamais retourné. Je me suis dit que j'allais apprendre par moi-même. Alors, certainement que le chemin est plus long quand on apprend par soi-même. Ça va peut-être moins vite. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du rock, du dur, etc. Ce que l'on a appris, on l'a appris de façon très empirique par soi-même. Et non pas et puis on n'est pas influencé aussi par un enseignement général, voyez ?
Oui, je suis d'accord. Il y a plusieurs façons d'enseigner en plus cette.
Oui. Voilà, ça n'empêche pas d'être ouvert à mille et une choses. Hein.
Plus on voit de choses, plus on en apprend.
Et plus on est riche.
Un chemin long qui t'a pris combien de temps à aboutir ?
Je suis pas encore arrivé. Hein.
Si on part de ce principe-là, effectivement, on apprend toute la vie.
Voilà. Mais on a un parcours un petit peu chaotique parce que c'est toujours difficile d'être à la fois peintre du dimanche et puis avoir l'activité. Puis petit à petit, on s'en détache parce qu'on a des propositions d'exposition à droite et à gauche. Et faut essayer de travailler intelligemment, ne pas lâcher non plus son métier premier parce que c'est ce qui nous permettait de peindre. Donc j'ai lâché, mais progressivement.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que la peinture est ton seul biais d'expression artistique ?
Oui. Oh, j'ai testé la musique quand j'étais adolescent, mais... J'avais des petits camarades qui déchiffraient 4 fois plus vite que moi, donc j'ai vite laissé tomber.
Chacun son domaine.
Voilà, c'est ça.
Donc, pas de cursus d'études artistiques.
Non.
J'ai lu que tu ne te définissais pas comme un peintre, mais comme un imagier. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Oui, je me sens plus dans la création de l'image que dans la fonction de peintre. La fonction de peintre, alors il y a... C'est toujours un peu magique, hein. Vous prenez du jaune, du bleu, vous mélangez, vous avez du vert sur la palette, comme ça, c'est merveilleux. J'ai toujours l'impression d'être un peu magicien quand c'est comme ça. Mais, et puis de déposer sur la toile cette couleur-là, et, Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de créer une image que de peindre, même si c'est mon médium. Je me sers de la peinture, mais pour autre chose que de faire de la peinture. J'ai besoin de créer des images.
Pourquoi ?
Parce que j'aime bien l'étrangeté de l'image.
Est-ce qu'on peut essayer de... Est-ce que toi, tu peux, parce que moi, je ne vais pas réussir à le faire correctement, essayer de décrire un petit peu ce que tu fais. Par exemple, un tableau que tu pourrais décrire.
Alors, je vais imaginer... Non, je vais juste un petit peu décaler ma réponse par rapport à la question. Ce que j'aime bien, c'est l'étrange. Donc, l'étrange, c'est... Il y a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Le Horla. Et puis, dans ce livre... Il y a un passage où il y a un personnage qui se couche le soir, et il met un verre d'eau sur sa table de nuit, et quand il se réveille le matin, son verre d'eau est vide. Et là, il y a quelque chose d'étrange. Je n'ai pas besoin d'un magma de surréalisme. Je veux dire, rien que ça, ça suffit, je trouve, pour mener l'esprit.
Oui, hein? Tout à fait.
Pour mener l'esprit. Donc, à l'intérieur de mes tableaux, j'essaie d'avoir une approche un petit peu comme celle-là. Je ne veux pas définir les choses. C'est au regardeur de définir la chose, mais je ne donne pas d'informations particulières.
C'est une intrigue.
C'est une intrigue, et puis c'est un petit peu pour déstabiliser le regard. Voilà.
Est-ce que tu donnes des titres à tes...
Justement pas.
Voilà, donc ça...
Justement pas. C'est à chacun de faire son cheminement à l'intérieur du tableau.
J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de peintres qui veulent aujourd'hui laisser libre arbitre au spectateur de penser ce qu'il veut.
Oui, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses quand vous exposez souvent en galerie. Le galeriste demande une explication de l'œuvre parce que l'acheteur a besoin souvent d'une explication de l'œuvre. Il a besoin d'une réponse pour formaliser un petit peu ce qu'il voit. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que ça enlève au regardeur une imagination considérable. Je peux vous donner une petite anecdote. Je suis en train d'exposer donc au conseil départemental et j'ai pas que de l'hyperréalisme, j'ai aussi des œuvres abstraites.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai une œuvre abstraite assez grande. Je suis fait 1m80 par 1m30.
Effectivement.
Voilà, un joli format. Et j'entends une conversation, deux personnes devant ce même tableau. La première personne dit « Ah, on dirait le profil d'une femme enceinte. » Et la deuxième personne dit « Ah non, moi ça me fait penser à une dent de lait. » Alors, imaginez le spectre, l'amplitude qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. C'est ça qui est merveilleux. Si j'avais donné un titre, je ne sais pas, moi, lever de soleil ou je ne sais trop quoi, les gens se seraient focalisés sur un lever de soleil. Tandis que là, ils font parler leur imagination et ils travaillent un petit peu. J'aime bien quand le regardeur travaille un peu aussi.
C'est ça qui t'intéresse, en fait, qu'on étudie et qu'on peut-être voir, du coup, les différentes visions des personnes.
C'est juste le début du commencement d'une proposition.
À ceux pour qui cela pourrait être abstrait, qu'est-ce que l'hyperréalisme ?
Alors, je vais encore un tout petit peu rectifier. Je n'ai pas l'impression de faire de l'hyperréalisme. Je connais quelques personnes qui font de l'hyperréalisme et c'est extrêmement troublant parce qu'ils arrivent à la moindre cellule de peau, le poil, etc. Et ce sont des gens qui sont un petit peu en compétition avec la photographie. Moi, je ne suis pas en compétition avec la photographie. Je fais des choses assez réalistes pour que ça soit un piège pour l'œil, de façon à ce que je reviens sur le thème regardeur, puisse un petit peu... C'est un peu pour le piéger, pour piéger un petit peu son œil. c'est pour un petit peu l'attirer vers le tableau. Mais si on regarde de près, assez rapidement, on voit très bien que c'est de la peinture et que ce n'est pas du tout de la photographie. Donc, pas de l'hyperréalisme.
Comment est-ce qu'on pourrait définir un style ?
Des images.
Ce sont simplement des images produites par la main.
Des images, par le biais de la peinture, mais ce sont des images. J'aurais pu faire le même travail sur Photoshop, mais ça me plaît moins quand même.
L'approche quand même du pinceau est...
Et elle est nécessaire parce qu'elle est charnelle.
Quelle relation tu as avec le pinceau, la peinture ?
Elle est charnelle. Elle est charnelle parce que quand je prépare la peinture sur la palette, j'ai l'impression de sentir quelque chose. Il y a un toucher. Il y a un toucher, appliquer la peinture sur le tableau et puis commencer à organiser des nuances, des fondus, etc. C'est un travail de cuisine, de cuisinier, tout simplement. Mais je n'imagine pas un cuisinier ne pas préparer son repas sans sentir les saveurs. Les parfums qui émanent des... Voilà. Moi, je travaille avec de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine, des différents médiums, et j'en ai besoin de ça aussi.
Ce sont différentes textures ?
Ce sont des liants. Vous avez le pigment qui est la poudre, du blanc, du bleu en poudre, etc. Puis à l'intérieur de ça, vous mettez des liants pour pouvoir homogénéiser les pigments pour que ça tienne et puis que ça fasse une pâte, tout simplement.
Selon le liant que tu utilises, est-ce que la peinture a une texture différente ou un aspect différent ?
Oui, tout à fait. On peut. Alors moi, je travaille beaucoup par glacis, c'est-à-dire que je mets beaucoup de liant, beaucoup d'huile et très peu de pigments. Et je viens plutôt en couches superposées. À l'inverse des impressionnistes qui mettaient très peu de liant, mettaient quasiment le tube sur la palette et posaient avec un couteau à peindre. Déposer quasiment au couteau les choses, pas tous évidemment, mais il y avait de l'épaisseur. Il y avait de l'épaisseur, oui. D'où le terme croûte.
D'accord.
On l'emploie quelquefois pour de façon très péjorative.
Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré ?
Oui, alors le premier dans lequel je suis tombé, c'est Georges de la Tour. Justement au musée des Beaux-Arts de Rennes, quand j'avais 11 ans,
D'accord. Le
premier tableau qui m'a, dans lequel je suis tombé en pamoison, sans savoir pourquoi, puisque je n'avais pas d'histoire, j'étais vierge de toute histoire de la peinture, c'est Georges de la Tour. C'est ça qui est assez troublant. Pourquoi lui, pas un autre, hein, parce que le musée de Rennes, il y a un millier de tableaux, certainement, sinon plus. Pourquoi celui-là, je ne sais pas. Il y avait déjà des affinités, je pense. C'est pour ça que je travaille beaucoup le clair-obscur. Après, évidemment, est arrivé un certain nombre d'autres peintres, un petit peu inévitables, comme Léonard de Vinci, les Flamands, comme Van der Weyden, comme Van Eyck, etc. Et puis, est arrivé des Vermeer, que j'adore, évidemment. Donc, toujours des gens qui travaillent l'ombre et la lumière, enfin,
D'accord.
la lumière surtout. Et puis, est arrivé des contemporains comme, je vais citer des noms que je ne sais pas si les gens connaissent, Richter, Polke.
Ça parlera aux auditeurs qui sont... à qui ça parlera.
Voilà.
On est déjà à notre première pause musicale que tu as choisie. On écoute Miroir de Thomas Enko et Vasilena. Thank you. de retour sur RGM avec Jean-Marie, artiste peintre vosgien. Tu as donc également choisi la peinture à l'huile, comme on disait. Pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile que la peinture à l'eau.
D'accord.
Alors, il y a l'adage qui dit que la peinture à l'huile, c'est plus difficile que la peinture à l'eau. Non, la peinture à l'eau, vous ne pouvez pas rectifier. Une fois que vous avez fait un trait, un tracé, c'est souvent sur du papier, la peinture à l'eau, ou même sur une toile. Mais une fois qu'elle est sèche, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle en peinture des repentirs. Le repentir, c'est, il y en a beaucoup quand on fait des radiographies de tableaux du 17e, 18e, on voit que tout d'un coup l'artiste a rectifié la position d'un visage, d'une main, d'un drapé, etc. D'accord. Et puis tout ça est recouvert, donc on ne le voit pas, mais on le voit à la radiographie, donc ça s'appelle un repentir. Donc la peinture à l'huile permet les repentirs plus facilement. L'aquarelle, il n'existe pas de repentir à l'aquarelle.
Oui. Oui, je suis d'accord.
Vous ne pouvez pas rectifier une aquarelle en changeant. Vous avez mis le clocher ici, tout d'un coup, vous le dépassez de 20 cm. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas gommer ce qui est fait. La peinture à l'huile, vous pouvez travailler à l'infini. Et en plus, si vous sortez la peinture le matin, vous pouvez travailler avec cette même peinture le soir parce que c'est de l'huile.
Ça ne sèche pas.
Ça ne sèche pas. Ça sèche, mais c'est un temps long.
D'accord.
C'est un temps, il faut plusieurs semaines pour que la peinture sèche. Voilà. Donc c'est parce que c'est plus facile, tout simplement.
D'accord. Est-ce que ça demande un processus en particulier ?
Non, pas forcément. Après, effectivement, quand on fait une peinture un petit peu réaliste, comme je la fais sur une majorité de tableaux, il y a une approche. Je fais des petits croquis parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, n'importe comment, et partir et puis rectifier toutes les 10 minutes des choses. Donc je fais des dessins au préalable. Souvent, j'ai des gens qui posent pour moi aussi.
D'accord.
Des gens qui posent. Les gens qui posent, je prends des photos, on ne les fait plus souffrir comme on les faisait souffrir des heures entières jadis. Et je prends des photos et je travaille d'après photo, bien souvent. Mais j'essaye de ne pas faire un copier-coller de la photo. J'essaye à l'intérieur de ça d'avoir ma part de liberté, sinon c'est un copier-coller, ça n'a aucun intérêt.
J'ai également lu que le cinéma t'influence pour les cadrages, les plans dynamiques et certains effets de floutage.
Oui, il y a ça. Alors, je dis pas que le cinéma, mais je reviens au cœur, à l'atome de ce que je fais, c'est l'image. Mais alors, c'est l'image arrêtée, l'image qu'on peut trouver dans un magazine, mais c'est aussi le cinéma. Le cinéma, ce sont aussi des images. Et quelquefois, je regarde un film, une séquence me plaît, je fais un arrêt sur image et je récupère la photo pour ensuite la bidouiller.
Toujours y remettre un petit peu de ta main.
Ah oui, de soi, oui. Ah oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que si j'y mets pas un petit peu mon identité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Oui. Tout à fait.
Je reconvertis un petit peu le pillage, voilà.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Comment est-ce que tu fais naître cette subtilité d'hyper-réalisme ?
Elle naît déjà quand je vois quand je vois l'image. Après, je fais aussi des photos, donc souvent avec des modèles. J'ai 2-3 personnes qui posent pour moi, entre autres une personne qui fait de la danse contemporaine, que vous connaissez peut-être de la compagnie L'Aéronef.
Moi, je ne sais pas. L'IA, peut-être.
À Épinal. Donc, la personne qui est à la tête de cette compagnie, c'est Anne Marion. Donc, Anne Marion pose souvent pour moi. Et donc, elle est danseuse, chorégraphe. J'allais dire presque instantanément, elle me propose quelque chose d'esthétique. Là, c'est presque un copier-coller de ce que je vois bien souvent, mais j'ai déjà la moitié du chemin de fait. Elle me propose la moitié du chemin de fait dans les poses. Alors, je rajoute quelquefois une lumière ici ou là pour faire un petit peu quelquefois du ténébrisme ou des choses comme ça. Mais il y a une création totale entre ce qu'elle me propose et moi à l'arrivée. Donc là, il n'y a pas de pillage. Ce n'est pas une photo qui est faite déjà, il y a une construction entière.
C'est aussi un travail d'équipe.
Oui, c'est un travail d'équipe, oui.
Et puis c'est elle qui figure sur tes peintures.
Oui, en majorité, bah, pas toutes les peintures, mais enfin tous les cas, toutes les poses où il y a de la danse, c'est elle qui pose. Oui.
D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait apprendre la peinture ?
Travailler, beaucoup travailler et encore travailler.
La rigueur, la patience, oui, et un jour vous y arriverez.
Oui, c'est... ça s'improvise pas, ça non. S'improvise pas. Mais c'est comme, j'allais dire, toutes les disciplines, ça s'improvise pas. Si vous êtes danseur, ça s'improvise pas. Si vous chantez, ça s'improvise pas.
C'est beaucoup de travail.
C'est du travail, ouais, oui.
C'est comme ça pour un petit peu tout, finalement.
Oui, tout à fait.
Même si toi, aujourd'hui, tu sais le faire, ça te demande quand même des heures de travail.
J'imagine que les gens qui font de la radio, ce sont des gens qui travaillent aussi.
Aussi, tout à fait. Est-ce que tu as un rituel avant ou pendant la réalisation de tes œuvres ?
Pendant, non, mais je commence toujours par un café.
On commence tous aussi par un café, finalement.
Voilà, je fais partie du coma des mortels avec ça. Le café, ça me permet le temps du café de m'installer un petit peu sur ce que je vais faire comme... La peinture à l'huile, c'est un petit peu diesel. Hein. On commence pas comme ça à 100 à l'heure. Donc j'ai besoin d'un petit peu de le temps du café, de la réflexion sur ce que d'accord. Je vais faire. Quelquefois deux cafés ou trois. Hein.
Comment est-ce que tu cibles ce que tu veux faire du coup quand tu te retrouves devant ton tableau ?
Alors généralement, je sais déjà la veille ce que je vais faire le lendemain. D'accord. Et parce que dans l'atelier, il y a des choses qui sont déjà là, qui sont déjà en place, et je sais que c'est là-dessus que je vais travailler et pas autre chose. Il y a un conditionnement déjà la veille pour le lendemain, mais je n'arrive jamais à l'improviste devant une œuvre.
Sur le moment, peut-être quand tu te retrouves devant ton atelier, tu aurais besoin de te mettre dans une certaine bulle avec, je sais pas, de la musique ouais. Ou ce genre de choses.
Oui, je fais très bien la césure entre une vie de famille et puis une fois arrivé à l'atelier, je peins ces deux univers totalement différents. Quelquefois avec de la musique, mais pas forcément. Souvent, oui, la musique m'accompagne. Oui. Quelquefois même, je m'arrête et puis je mets de la musique parce que j'ai besoin d'un élan particulier.
D'accord.
Où je cherche un univers particulier, quelquefois. Donc la musique, quelquefois, peut me donner, non pas une réponse, mais peut me pousser un petit peu.
Tu disais que tu savais faire la part entre la famille et l'atelier. C'est vraiment un moment pour te retrouver toi et
voilà.
Toi tout seul. C'est important pour toi, ce genre de moment ? Est-ce que ça serait pas même bénéfique ?
Ah bah les deux moments sont importants.
Bien sûr.
La vie de famille est très importante, mais je ne mélange pas les deux univers parce que je ne pourrais pas le faire, tout simplement. Je ne pourrais pas le faire, c'est trop compliqué. J'ai qu'un seul petit cerveau. La conjugaison des deux ne pourrait pas se faire. Mais parce que j'essaye d'être entier de chaque côté. Donc je suis obligé d'avoir une coupure entre et la vie de famille et l'atelier. Et quand je ne suis plus à l'atelier, c'est la vie de famille.
Pour toutes ces œuvres que tu réalises, faut-il du matériel spécifique ?
Oh ben le matériel de la peinture à l'huile, à savoir soit de la toile, soit du bois. Je peins sur bois aussi.
D'accord.
Voilà. Des pinceaux généralement assez fins quand même, en poil de martre. Ah oui, c'est très particulier. Il y a beaucoup de poils de cochon, poils de martre, et puis des pinceaux en poils synthétiques, voilà, qui sont assez fins aussi, mais moins résistants que le poil de martre, qui est vraiment le pinceau haut de gamme.
Est-ce que ça change un petit peu le rendu ?
Bah, il y a une meilleure qualité, effectivement. Il y a un meilleur geste avec ces... Enfin, pour moi, en tous les cas, il y a des gens qui peignent avec autre chose, hein. Et qui trouvent leur compte. Mais moi, j'ai besoin du soin et du soyeux du poil de martre, ouais, qui est fin, qui se rapproche un petit peu, peut-être vous l'avez vu, des pinceaux japonais avec lesquels on peut faire des choses assez grasses et fines en même temps.
Oui, tu parlais aussi tout à l'heure donc, de pigments. Où est-ce qu'on se procure ça ?
Pour les pinceaux, je vais plutôt à Nancy. Je n'arrive pas à trouver sur Épinal ce que je souhaite parce que ouais, je suis peut-être un petit peu difficile, je ne sais pas. Mais il y a des magasins, il y a de beaux-arts que je ne citerai pas ici, mais voilà, on trouve un petit peu le minimum. Et puis, j'allais dire, et les peintures, évidemment, qu'on trouve,
oui.
Des peintures à l'huile que l'on trouve. L'huile de lin, l'essence de trébentine, que l'on dose à souhait, qu'on mélange. On mélange les deux, on fait des mélanges plus ou moins gras en fonction des nécessités.
Est-ce qu'un débutant a forcément besoin de matériel haut de gamme pour réaliser quelque chose de qualité ?
J'allais dire, tout dépend ce qu'il souhaite, mais si on veut un travail extrêmement fini, vaut mieux un travail de qualité, oui. Bien sûr. Autant avoir de bons outils dès le départ.
Combien de temps est-ce qu'il te faut pour la réalisation d'un tableau ?
C'est très variable. C'est très variable. Il y a des choses qui vont, entre guillemets, assez vite, et puis d'autres qui sont plus longues, et puis des choses qui n'aboutissent jamais, que j'efface au bout d'un certain temps, parce que ça ne vient pas, tout simplement.
Est-ce que la dimension joue aussi ?
Oui, bien sûr. Oui, la dimension joue énormément. Et plus vous avez un tableau... grand, comme on dit, plus il y a un aspect un peu théâtral. Quand vous peignez, quand je peins sur une œuvre assez grande, je suis dans le tableau.
D'accord.
Je fais œuvre avec le tableau. Je suis dans le tableau comme un personnage se trouve dans une pièce de théâtre, par exemple.
D'accord. Quelle émotion est-ce que tu ressens quand tu es dans ton tableau, quand tu peins, tout simplement ?
Alors, il y a de fortes émotions au tout début, quand je fais les photos, quand je fais aussi des croquis, parce que je sais que là, c'est la naissance de quelque chose. Après, ce sont d'autres émotions. Alors, ce sont des émotions un peu techniques aussi. Mais il y a des moments où on découvre des petites choses qui font le bonheur. Enfin, c'est comme un artisan. J'ai un travail un petit peu artisanal quand même, mais je n'ai pas une réponse spontanée sur ce que je vais faire, puisque c'est un travail de longue haleine. Un petit bonheur au moment où je mets ma signature en me disant celui-là, il est terminé, parce que je me dis qu'il faut bien le terminer à un moment donné. Là, c'est tout à fait subjectif pour qu'on termine un tableau à ce moment-là et pas un autre.
Est-ce que tu cherches à procurer une émotion précise chez les personnes qui observent tes œuvres ? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure.
Eh bien non.
Non ?
Précise, non. Moi, je compose des choses.
Comme oui, justement.
Je disais,
oui,
je disais tout à l'heure, effectivement, les gens peuvent interpréter l'œuvre de mille et une façons, de mille et une manières.
Complètement.
Voilà.
Et toi, c'est ce que tu recherches, justement. Oui. On connaît tous le syndrome de la page blanche chez les écrivains. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, le syndrome de la toile blanche ?
Non.
Jamais.
Non, mais c'est même plutôt l'inverse. Moi, j'ai trop d'idées. Je ne peux pas tout gérer, donc je suis obligé de faire des choix. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Je ne sais pas ce que c'est que le syndrome de la toile blanche.
Et bien heureusement.
Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça me permet de... Alors, inversement, il faut que je trie aussi les choses, quoi. J'ai une espèce de surplus, comme ça, de bagages. Et il faut que je trie à l'intérieur de la valise, hein. Parce que j'ai trop de choses.
J'ai un copain qui, lui, fait de la musique et qui est tellement débordant d'inspiration qu'il est obligé d'y aller sur le moment, sinon il oublie. Est-ce que ça t'arrive aussi d'oublier certains détails que tu voulais mettre ?
Alors, ça dépend des œuvres, mais... Alors, mes œuvres sont assez dépouillées, donc de ce côté-là, j'ai pas de soucis parce que j'ai pas beaucoup d'objets, je représente pas énormément de choses.
Ouais.
J'essaie de restreindre l'image pour qu'elle soit plus lisible, avec une approche, avec une lecture presque simpliste.
On n'a pas besoin de chercher plus loin.
Je mets pas beaucoup d'éléments dans mes tableaux, oui, très volontairement, oui.
Oui, ça met quand même le point sur quelque chose de précis.
Ah oui, complètement, oui. J'espère centraliser les choses, justement, et ne pas trop divertir l'œil par un amalgame de choses à l'intérieur du tableau. Pour ne pas trop divertir, enfin, j'espère divertir à la fois, mais sur de l'essentiel, et non pas sur des choses un peu factuelles à côté.
Est-ce que le clair-obscur t'aide ?
Ouais, j'en ai besoin parce que je trouve que la lumière et l'ombre redécoupent les choses. Vous avez de l'ombre et de la lumière sur un visage, sur une épaule. Ça n'est plus le même visage, ça n'est plus la même épaule. Et j'ai besoin de ça parce que c'est un jeu très subtil. Je trouve que quand on déplace une lumière sur un corps comme ça, on a des lectures différentes.
L'expérimentation un petit peu des...
Oui, il y a de ça,
des images. Eh bien, écoute, on va se passer à un nouveau petit son que tu as également choisi. C'est Mozambique de Michel Portal sur le 107.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Guémozo et avec moi, toujours mon invité Jean-Marie. Tu as fait de nombreuses expositions, notamment à l'usine d'Uxonnier, à d'autres endroits également.
Quelques-unes à Nancy, je crois, deux MJC à Nancy, forcément au Bailly à Épinal, la galerie Poiron aussi à Épinal. Voilà, pour les expos du secteur.
Est-ce que c'est un moment où on rencontre aussi d'autres artistes ?
Oui, c'est un moment où on rencontre des artistes parce que les artistes sont curieux, ils viennent voir leurs petits collègues déjà, donc ça permet d'échanger. Oui.
De mélanger les différentes manières.
Ah, quand il y a des expos collectives, oui, bien sûr. Hein, j'ai une expo collective qui arrive bientôt, au mois de septembre, au théâtre de Lunéville, du 21 au 29 septembre. Et là, je ne sais plus, on est peut-être une vingtaine à exposer dans le théâtre de Lunéville. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on rencontre des gens et on échange, évidemment, quoi.
Ça apporte d'autres visions,
oui.
Juste de ce monde-là.
Oui.
Est-ce qu'on a l'impression de se mettre à nu lorsqu'on dépose ses œuvres ?
Je ne suis pas sûr. Enfin, pas pour moi. Je n'ai pas l'impression. J'ai même plutôt l'impression de me camoufler derrière un masque.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. J'ai l'impression que je fais diversion avec ma peinture. C'est un costume qui est le mien, mais ça reste un costume, je crois, que je me suis fabriqué au fil du temps, depuis l'âge de 11 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais non, moi, je n'ai pas l'impression de me mettre à nu.
Est-ce que tu as une idée du nombre d'œuvres que tu as réalisées depuis que tu as commencé à peindre ?
J'espère bien que non.
Il y en a tellement.
J'espère bien que non, parce qu'il y avait quelques décennies que je peins maintenant et je ne compte pas, quoi. Je peux pas compter, c'est pas possible.
Est-ce que tu te rappelles de ton premier coup de pinceau ?
Je crois que je me souviens effectivement de ma première peinture à l'huile, qui était tout simplement une bougie. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'étais très influencé par Georges de Latour. Et la première peinture à l'huile, c'était une bougie. C'est une bougie qui se trouve dans un tableau qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Nantes.
D'accord.
C'est l'ange apparaissant à Saint-Joseph. Voilà, pour situer un petit peu le tableau, s'il y a des gens curieux qui veulent aller voir un petit peu. Et donc, il y a une bougie posée sur la table. Et voilà, je me suis amusé à peindre cette bougie.
Un lien particulier qui te raccroche à cette œuvre ?
Georges de Latour. Et j'ai fait quelques copies de Georges de Latour parce que j'avais besoin, techniquement parlant, de comprendre comment il fonctionnait.
Est-ce que
les subtilités d'ombre et de lumière, de répartition, etc., de nuances, on apprend énormément de choses. Bon, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, hein, entre autres Picasso dit... Il disait, copie, vous en restera toujours quelque chose.
Oui, bah bien sûr. Reproduire, c'est apprendre, quoi.
Voilà, reproduire, c'est apprendre, bien sûr, oui.
Si tu pouvais choisir laquelle de tes œuvres tu préfères ?
C'est compliqué, c'est une question compliquée. Non, la question est facile, la réponse est compliquée.
Effectivement.
Je ne sais pas. Ça, on me demandait de choisir entre différents enfants comme ça, c'est pas possible.
C'est pas la première fois qu'on me le dit, celui-là d'ailleurs. J'ai l'impression que tu me demandes de choisir entre mes enfants. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en parcourant tes réseaux sociaux, j'ai pu observer que tu peignais presque que des portraits.
Ouais, j'ai quelques peintures abstraites, mais en majorité, je fais beaucoup de figuratifs, oui.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est parce que j'ai une sensibilité particulière à l'humain, je pense, oui. Très, très peu de paysages, ça m'est arrivé, mais c'est plutôt rare. J'ai une sensibilité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour la danse, et je trouve qu'un corps humain qui est en mouvement, comme ça, entre autres, souvent avec des projecteurs, il y a une magie particulière qui m'émeut.
D'ailleurs, ce qui est rigolo, un petit peu à l'opposé, c'est que tu donnes du mouvement à une image figée.
Oui, j'étais souvent très frustré de ça parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de mouvement dans mes tableaux. Et je me suis résolu à me dire que c'était une image, que ça ne bougeait pas. Et que je ne faisais pas de la danse contemporaine, que je ne faisais pas du cinéma. Donc, mais parce que je me suis dit que... Au bout d'un certain temps, si vous avez une chorégraphie, vous avez un mouvement sur une durée, sur un temps déterminé. L'image n'a pas de temps déterminé. Et justement, sa qualité, c'est d'être figée, de ne pas bouger. Et d'y revenir à loisir, c'est un peu le pendant du mouvement, l'image figée.
Alors, frustrant, mais quelque chose que tu as quand même voulu approfondir.
Oui. Et plus j'en fais, plus je me nourris de ça, et plus on se nourrit de ça, et plus on vient un petit peu obèse de ce que l'on fait.
Ils sont souvent représentés de dos, également de face, mais toujours très sérieux. Tu apportes une ambiance un petit peu intrigante.
Alors, c'est sérieux peut-être, effectivement, mais j'aime bien l'étrange, j'aime bien l'intrigue. Comme je disais tout à l'heure, j'aime pas quand on... Je trouve que déjà en peinture, là... Enfin, pour moi, je trouve que l'humour ne fonctionne pas. L'humour, c'est quelque chose de spontané qui dure quelques instants et qui ne dure pas dans le temps. D'accord. Donc, faire des peintures rigolotes, ça retombe très vite.
Oui,
ça retombe très vite, je trouve. Et sérieux, je ne sais pas, mais étrange, oui.
Alors, quel autre terme tu donnerais pour décrire ce que tu fais ?
Une intrigue, oui. Une petite intrigue. C'est un petit côté mystérieux, quand même. Voilà. Mais pas surréaliste. Le surréalisme, c'est encore autre chose. C'est encore un autre discours. Mais un peu mystérieux, un peu étrange, un peu distant aussi. J'aime bien quand il y a une petite distance entre l'image et puis celui qui regarde. Parce que ça demande au regardeur une petite volonté d'aller chercher quelque chose éventuellement. On n'est pas obligé, mais c'est d'aller chercher éventuellement une réponse dans l'image.
Cette intrigue dont on parlait tout à l'heure, justement.
Mais il n'y a pas forcément de réponse.
Oui, bah oui.
Il n'y a pas forcément de réponse. Je propose des choses, mais il n'y a pas forcément de réponse.
De l'observation et de l'interprétation.
Oui.
De par soi. Je trouve ça intéressant parce que si tu étais là à chaque fois que quelqu'un regardait tes tableaux, par exemple, tu pourrais observer énormément de façons de penser.
Oui, ça m'arrive quand il y a des vernissages de déambuler avec les gens pour écouter un petit peu ce qui se dit. Savoir un petit peu ce que les gens ressentent. Je trouve ça intéressant. C'est un peu fait pour ça, d'ailleurs, parce que sinon, on peint pour soi et puis on garde les œuvres dans son atelier. Mais à partir du moment où on les expose à un public, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu leur discours, leur façon de recevoir une émotion, quoi.
Et puis tu rencontres quelqu'un aussi.
Et on rencontre des gens. Puis ça crée des dialogues. C'est un peu fait pour ça, oui.
Est-ce que c'est important pour toi de prendre contact avec les personnes qui observent tes œuvres ?
Oui, c'est important. Je l'ai pas c'est pas l'élan premier. L'élan premier, c'est de peindre pour soi. Après, le deuxième élan, c'est de proposer un petit peu ce que l'on fait. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a un dialogue qui s'installe, s'il y a une discussion, c'est moi, je découvre des œuvres par le biais... Je découvre mes tableaux par le biais du regard de l'autre, quelquefois. Mmh. Il me fait découvrir des choses que je n'avais pas inscrites sur le tableau.
Est-ce que ce n'est pas une manière de partager quelque chose que toi, tu as produit ?
Ah oui, si. Et puis d'enrichir surtout ce que je regarde.
Tu disais que c'était un second stade d'exposer. À quel moment tu t'es dit que tu voulais enfin exposer ?
Oh, c'est arrivé très tôt. Je vais avoir une vingtaine d'années pour ma première exposition. Très modeste, mais la première exposition, c'est quelque chose d'important qui est resté dans ma mémoire. À l'époque, j'avais l'impression d'être à nu, par contre, parce que ça, c'était la première exposition. Je crois que je me suis confectionné au fil du temps des habits.
D'accord, oui.
Mais à l'époque, la première exposition, c'est C'est très impressionnant, même si j'avais que, je sais plus, 4-5 tableaux. Le regard de l'autre était très important. Maintenant, j'ai une distance avec l'âge, j'ai la distance du regard de l'autre.
On apprend ça au fur et à mesure, bien sûr.
Voilà.
Et donc, cette première exposition, est-ce qu'on peut en parler? Se mettre à nu comme ça, est-ce que ça a été quelque chose qui t'a lancé malgré cet inconfort un petit peu?
On y retourne, hein. On y retourne parce que on crée un échange bizarre, particulier, et qui correspond aussi à une nécessité à un moment donné d'exposer pour. Comme je disais, c'est la deuxième phase. Mais ça permet de créer quelquefois des intimités dans le regard de l'un et de l'autre et d'avoir un langage qu'on n'aurait pas autour d'une table, naturellement, comme ça, dans une conversation un petit peu de la pluie et du beau temps. Ça nous sort un petit peu de ce genre de conversation.
C'est notre dernière pause musicale. Arthur H, c'est Cheval de Feu.
Je dévalé dans les ravines, dans les prairies, j'étais sauvage. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade. Quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps. Oh, mon rêve, je t'ai trouvé près de la falaise réfugiée. Quelque chose dans le vent me dit qu'il attend. Alors on a rejoint les autres, nous les vifs, les indomptables.
Sur le 107 avec Jean-Marie qui nous a emporté dans son monde artistique entre, alors est-ce qu'on peut le dire, hyper-réalisme quand même.
Avec un petit bémol.
Ombre et lumière et portrait, il nous procure des émotions intenses. Vous aurez l'occasion de découvrir son art au conseil départemental d'Épinal jusqu'en novembre. Est-ce qu'on pourra te retrouver sur place?
Ah, si une personne souhaite me rencontrer, c'est tout à fait faisable, oui, de façon... on peut toujours organiser un rendez-vous, si quelqu'un le souhaite, oui.
C'est bon à savoir. Des projets pour l'avenir?
Les projets, c'est de continuer à peindre.
Ah bah oui.
C'est de continuer
à
peindre.
On essaye.
Voilà, toujours plein de tableaux, plein d'idées, etc. Alors si la question c'était des dates, oui, j'ai une date au mois de septembre de cette année, du 21 au 29 au théâtre de Lunéville, à une expo collective.
D'accord.
Avec l'association que je suis en train de chercher le nom, je crois que c'est Artypique.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
De faire mieux que ce que je ne fais maintenant.
Alors on te le souhaite. Est-ce qu'on pourra te retrouver sur les réseaux sociaux ?
Oui, moi je suis sur Instagram, Facebook, voilà, donc les gens qui veulent consulter page. Voilà, je les y invite.
Est-ce que tu as un nom de...
Il faut tout écrire, Jean-Marie Chéruot, c'est très barbare, mais voilà.
Super. Un petit mot pour la fin.
Merci de m'avoir reçu. Et alors, je tiens à souligner que c'est ma première radio et je suis très content d'avoir rencontré Lee aujourd'hui même, ce jour-là. Voilà, c'était un baptême.
Ravi de t'avoir rencontré également. Ça fait un bon moment. Et merci auditrices, auditeurs d'avoir écouté cette émission. Elle sera rediffusée et podcastée sur notre site internet et nos réseaux sociaux comme d'habitude. Au revoir et à bientôt.